Revue de dépresse avec les sorties pas forcément folichonnes du mois. Mais une fois n'est pas coutume, on va commencer par un titre dont je ne vous avais pas parlé dans la première revue de presse de la semaine dernière. Parce que je l'avais un peu oublié, qu'il est un peu indispensable à mon goût. Il s'agit de Ex-Manowar, série qui revient pour la troisième fois, qui avait été lancée au début des années 90, avant Image, il y a plus de 20 ans. Et c'était à l'époque un certain Jim Shooter qui avait fait ce titre chez l'éditeur qui s'appelait Valiant. Enfin, qui l'avait mis sur le marché en tout cas, puisqu'il était l'éditeur. Ça me permet de placer Shooter encore une fois dans ses missions, même s'il ne collabore pas au retour de Valiant. Il y avait eu un deuxième univers Valiant qui avait été créé plus tard, sur lequel Ex-Manowar était revenu. Je suis en train de chercher le scénariste de l'époque, c'était Jim Chung, je crois, au dessin, qui commençait tout juste. Et donc, ça, c'était donc à l'époque avec Acclaim qui relançait l'univers. Et enfin, on a eu un troisième univers qui s'est présenté dans ce cadre-là. Ce troisième univers, il commence en mai avec Ex-Manowar, qui est la première de quatre séries. Donc, je vous en reparlerai les mois qui viennent. Donc, Ex-Manowar, pour simplifier, c'est Conan qui tombe sur une armure extraterrestre, d'ailleurs, Rollman.
Bien résumé, effectivement.
C'est exactement ça. Donc, c'est un barbare avec la technologie ultra-moderne qui est à sa portée. Et juste, il a un peu encore une éducation de barbare et n'est pas habitué à jouer dans la finesse.
On peut dire ça.
Le dessinateur en plus sur cette série, c'est Kerry Nord, que dessinateur excellent et qu'on a notamment vu travailler ces derniers temps sur la série Conan.
Il va pas être dépaysé,
sauf qu'il va revenir à quelque chose de plus super-héroïque grâce à cette armure. Voilà, donc c'est un retour qui fait envie, même si c'est du 3,99, on est chez un indépendant. Et avec un indépendant, 3,99, c'est tout à fait compréhensible par rapport aux ventes que devrait avoir ce titre. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça va fonctionner suffisamment pour que les 4 titres continuent. Alors, les 4 titres, donc le premier c'est Ex-Manowar en mai, en juin Harbinger, en août Bloodshot, et en septembre on aura Archer en Armstrong, donc 4 titres qui reviennent, sachant que y avait d'autres titres à l'époque mais qui sont déjà revenus chez Dark Horse, parce que c'était des titres qui avaient été rachetés à l'époque. Dans les personnages qu'on avait dans cette époque là on avait Turok, on avait Solar et on avait également Manus Robofighter, qui était des personnages de Golke qui complétaient cet univers Valiant. À noter aussi Shadowman, évidemment, qui en faisait partie. Mais là, sur Shadowman, je pense que Acclaim a peut-être conservé les droits compte tenu du nombre de jeux vidéo qu'ils avaient fait sur le personnage, et qui avait plutôt bien fonctionné à l'époque. Voilà, donc en tout cas, un nouvel univers, ou plutôt un univers qui revient. Moi, je suis très motivé pour suivre cet univers. Et donc,
Donc apparemment, niveau recrutement, ils mettent des gens qui ont un peu de visibilité et un brin de talent aussi.
Voilà.
Alors, pas l'affaire.
On s'attendait à voir effectivement David Adja, qui avait été plus ou moins annoncé sur Bloodshot. En fait, il ne fait pas la série, mais il va faire de nombreuses couvertures sur tous les titres, visiblement. Puis bon, Kerry Nord, qui est quand même un bon auteur. Et voilà. Puis il y a plein d'auteurs qui sont repris, qui viennent plutôt de différents univers. Là, c'est Robert Venditti qui va écrire la série. Robert Venditti, qui n'a pas fait de comics jusqu'ici, mais qui, je crois, s'est illustré à la télévision.
C'est fort possible. Bien que son nom me dise quelque chose, mais...
Alors, on va rechercher. Et puis, voilà, sinon, ça, c'était pour cette revue de presse décalée. Mais on a aussi une revue de dépresse sur le tapis, avec des titres qui sont chez différents éditeurs. On va commencer peut-être par DC dans un instant. Je suis en train d'essayer de chercher en même temps, mais j'ai les bras trop courts pour retrouver Robert Venditti.
Je suis en train de le faire.
Mais oui, le nom, j'ai un trou, mais je suis sûr que je le connais. Voilà.
Effectivement, il a bossé chez Top Shelf sur The Surrogates.
Mais je crois qu'il a fait de la télévision.
qu'il a fait, peut-être de la télévision, mais ouais. Il est aussi l'auteur d'un graphic novel sur Percy Jackson et de la mini-série The Homeland Directive, toujours chez Top Chef.
Ouais. En tout cas, on est donc maintenant sur la revue de Depress. Et on va commencer par deux titres dont on vous avait parlé il y a un peu plus d'un mois quand ils ont été annoncés. C'est Grifter et Savage Hawkman qui, avec les neufs, retombent dans l'escarcelle de Rob Liefeld.
Aïe.
Alors, on savait que sur...
Deathstroke aussi.
Voilà. Sauf que Deathstroke, on savait à quoi s'en tenir.
Oui.
On savait que c'était Rob Liefeld tout seul, scénario et dessin. Sur les deux autres titres, on savait les dessinateurs, donc Scott Clark pour Grifter et Joe Bennett pour Savage Hawkman. Jusque là, on était plutôt confiants.
Oui, on savait pas de grosses inquiétudes graphiquement. En tout cas.
Voilà. On savait aussi par rapport à ça qu'il y allait avoir des co-scénaristes. Et ça, c'était plutôt rassurant.
Voilà.
Sauf qu'on a vu les noms des co-scénaristes.
Et là, c'était beaucoup moins rassurant.
Parce que sur Savage Hawkman, déjà, c'est Robert Roddy. Comment dire Robert Roddy, n'importe quoi.
Mark Poult.
Non. Sur Grifter, pardon, je voulais dire. Alors, on peut commencer effectivement par Mark Poulton sur Savage Hawkman. Je me suis tout mélangé, mais c'est parce que j'ai les bras trop courts, en fait. Alors, Mark Poulton, donc, va écrire. Là, on est carrément dans le co-scénariste inconnu.
Quand... On est dans le bon copain, quoi, parce que c'est juste le gars qui a repris Avengeline récemment chez Image. Donc,
il essaye de le...
De le caser.
Et surtout que, bon, on va en reparler tout à l'heure, d'Avengeline... Mais il y a quand même du recyclage qui peut commencer à se faire. Voilà, donc concrètement, là, on n'est pas sur le nom qui fait rêver, qui va faire vendre. Après, voilà, soyons honnêtes, la série n'avait rien pour faire rêver non plus depuis sa création.
Ah bah déjà, entre Tony Daniel et Philippe Tan, il y avait beaucoup de raisons pour pas l'acheter.
Là, Joe Bennett, on a au moins un bon dessinateur.
Il y a au moins un bon dessinateur.
Donc
après
le concept est pas forcément terrible à la base. Et puis bon, on va nous remettre des nouveaux personnages et tout pour essayer de relancer l'intérêt.
Bah surtout, enfin, on confie à Rob Liefeld tous les personnages mou du bulbe qui pense qu'il a frappé avant de d'agir. Enfin,
en même temps, c'est pas lui qui a voulu le relooking de Hawkman de la sorte.
C'est vrai. Mais il va rien faire pour arranger la chose. Donc on va vraiment avoir un...
En même temps, en commentaire, on a It's Hawkman the Savage Warrior. Bon, la série s'appelle déjà Savage Hawkman, donc ça n'a rien de totalement incohérent. Mais quand même, je suis pas hyper enthousiaste sur la question.
Mais quand Geoff Jones avait lancé la série Hawkman lui-même, il avait parlé d'en faire un espèce de Conan L.A. Mais il a été quand même beaucoup plus fin que ça et avait rapporté des choses plus intéressantes. Là, on est franchement dans le bourrin de base. Le mec qui vole et qui a des grosses armes tranchantes à portée de main. Quoi.
Ouais, tout à fait. Avec des couvertures absolument monstrueuses. Enfin, au moins la première est vraiment pas belle du tout.
C'est Rob Liefeld en même temps, on ne peut pas ne pas être surpris.
Sur Grifter, puisque c'est le deuxième titre, là, c'est beau. Les planches de Scott Clark qu'on a vues sont magnifiques. Bien meilleures que celles qu'il a fait précédemment sur les scénarios de Nathan Edmondson, qui, reconnaissent-le, même pour moi qui suis un amateur du monsieur, sont quand même très quelconques.
Donc,
Maintenant, là, au niveau du scénariste, on n'est même plus dans le bon copain là. On est quand même dans un des seuls mecs qui a dit à Marvel un jour, ma série elle se vend pas, elle est tellement mauvaise que si vous voulez je vous l'écris gratuitement.
C'est dire que le gars est motivé pour rester.
Voilà, la série s'appelait à l'époque Weapon X, et je pense que c'est le titre X qui a été le plus décrié par les critiques, tellement c'était pas à la hauteur des attentes. Et le monsieur, il s'appelle Frank Thierry.
Voilà.
Il a tenté des retours chez DC, il a fait différentes choses qui ne se sont jamais vendues correctement.
Voilà, son seul fait d'armes, c'est quand même un assez long run sur Wolverine, qui a ses défenseurs, hein, faut bien l'avouer.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup, mais voilà. Pas beaucoup. Et on n'est pas vraiment dans le mec qui a su rassembler autour de lui son incroyable talent. C'est vraiment le gars qui tire à la ligne et qui essaie vaille que vaille de survivre.
Donc voilà, donc Franck Thierry sur le titre, c'est un peu le truc qui fait peur.
Qui fout, oui.
Et là, on peut se demander où ça va aller. Enfin bon, à suivre. On verra. Peut-être qu'il y aura des grosses surprises. Qu'ils ont vraiment des équipes et des idées. En même temps, donc, Grifter est toujours à affronter les Daemonites. Et avec lui, dans cet épisode, il aura Grifter et Cheshire.
Deathblow
et Cheshire, pardon.
Voilà, Deathblow qui est, comme Grifter, un ancien personnage du label Wildstorm. Et Cheshire qui est, elle, un personnage qu'on a vu beaucoup plus dans l'univers des Titans.
Voilà. Et quand on voit l'image, la manière dont il a relooké le personnage, c'est absolument catastrophique. Parce que ça n'apporte rien de rien à rien.
Bah, c'est Liefeld qui continue à faire du Liefeld, coûte que coûte, vaille que vaille. On a beau lui dire que c'est moche, qu'il n'y a pas de détails, qu'il ne s'est pas dessiné.
Bon, en même temps, sur Deathblow, ça passe tout seul. Mais sur Cheshire, oui. On pouvait s'attendre à mieux qu'à une fille avec en plus une grande épée où finalement ça ressemble plus à Avengeline qu'à Cheshire. Ce serait une Avengeline en vert si on veut simplifier.
Voilà, comme quoi il y a un semblant de logique dans tout ça, on va dire.
Mais à présent,
est-ce
je
que Rob Liefeld dessinerait-il toujours la même chose?
Je
pose la question comme ça.
Que tu es mesquin. Alors, bon, ça c'était effectivement les choses qui m'ont marqué au niveau de DC. Au niveau de Marvel, c'est les titres Spider-Man où je suis un peu dans une... Comment dire? Dans un flou artistique entretenu et presque volontairement motivé par Marvel. Actuellement, il y a un crossover qui s'appelle End of the Earth sur Spider-Man qui s'étale entre les 682 et 687 d'Amazing. Et ce mois-ci, on a les 685 et 686.
Jusque-là,
tout va bien.
On suit à peu près.
Ensuite, il y a un numéro qui sort ce mois-ci qui s'appelle Amazing Spider-Man End of Earth 1, qui n'a rien à voir à proprement parler avec l'arc End of the Earth, de Amazing Spider-Man, qui est un one-shot à côté, c'est même pas le début, c'est en plein milieu. Et en plus... C'est un spécial avec deux histoires de team-up, une avec Union Jack et une avec, attention au miracle, aux guest stars fabuleuses, Big Hero 6.
Ah, ça faisait longtemps.
Le groupe qui était avec Sunfire avant que Sunfire n'ait plus de pouvoir, je crois qu'il même est mort là, non? Je crois.
Alors là,
mais bon.
En voilà une question qu'elle est bonne.
En voilà une question qu'elle est bonne, en tout cas. C'est effectivement du fond de tiroir dans le cas de Big Hero 6. Union Jack a toujours un peu le potentiel, mais ce one shot placé là, comme ça, on compare pas vraiment. Pourquoi et surtout pourquoi ce nom? C'est limite, on aurait pu l'appeler Amazing Spider-Man annual. On aurait pu comprendre que ce soit une histoire qui se place un peu n'importe où. Sauf que dans Amazing Spider-Man annual, on a un one shot. Enfin, on a un numéro. Avec un spécial guest starring Avengers et où Spider-Man arrive dans un monde où il n'y a jamais eu de Spider-Man, de Peter Parker. Donc là on se dit c'est un peu compliqué leur histoire. Pourquoi effectivement ce Ellsworth dans un annual alors que c'est totalement déconnecté de la réalité? Après Brian Reed, Lee Garbett sur l'annual, pourquoi pas? Moi j'ai aucun problème.
A priori ça peut être une bonne idée.
Voilà. Si on regarde les gens qu'on avait sur l'autre one shot, au scénario on avait Dan Slott, Brian Clevenger, Rob Williams et au dessin Tony Silas. On se dit ouais pourquoi pas, après tout l'annual fait plus envie. Bon, le one shot précédent était à 3,99, 32 pages. L'annual était à 48 pages, 3,99. Pour l'instant, tout penche en faveur de cet annual, qui en plus ne nécessite pas de connaissances pour le lire, mais du coup, qui aurait été plus à son aise en one shot. Et mettre l'autre, avec ses deux histoires courtes à la mort moelleux, dans un spécial. Non ? Dans l'annual.
Oui, bah, moi, ça
ne
fait pas vraiment.
Voilà. Là où, en plus, ça devient compliqué, c'est que le même mois, ils n'avaient rien pour remplir Avenging Spider-Man, et qu'ils ont fait faire un épisode à Catherine et Stuart Immonen de Spider-Man et She-Hulk, qui va sûrement être très bon et très drôle, c'est pas la question. Mais ces deux petites histoires de team-up, elles auraient peut-être eu leur place dans Avenging Spider-Man, après tout. Non ?
Voir
Avenging Spider-Man.
Ça, mais
enfin, moi, ce qui me semble vraiment bizarre, c'est de sortir en plein milieu d'un crossover un numéro qui va donner l'impression que c'est l'introduction du crossover qui a commencé deux mois avant, alors qu'en fait, c'est juste un tie-in.
Oui, voilà, c'est un tie-in qui se passe. Après, ils en vendent tellement et trucs comme ça. Quand ils avaient fait Spider Island, on avait le droit à des mini.
Là, ce malin, il fallait l'appeler Spider-Man Family. Il y a eu une série Spider-Man Family. On pouvait faire un one-shot Spider-Man Family. Mais voilà, c'est juste que au moment, en plein milieu de End of the Earth dans Amazing Spider-Man, on nous sort un spécial Amazing Spider-Man End of the Earth numéro 1 qui laisse quand même à présager que c'est le début d'un arc et pas du tout.
Oui, voilà, effectivement.
Donc, c'est un peu là qu'est la tromperie sur la marchandise, à mon sens.
Oui, voilà, il y a à peu près la tromperie sur la marchandise à ce niveau-là.
Et bon, mais bon, si vous êtes fan de Big Hero 6,
si vous êtes... Et il y en a, je le sais, qui se cachent parmi vous.
Si vous êtes LE fan de Big Hero 6,
fan de Big Hero 6 en France,
c'est pour vous. Bah, surtout, c'est inédit en France, donc je crois qu'on n'est pas 36 000 à savoir que ça existe. Hein.
C'est clair.
Donc voilà, moi c'est plus sur ce côté marketing un peu bizarre et sur le je sais pas exactement ce que je vois. Sur les choses qui peuvent être plus agréables, il y a Takio, donc le nouveau titre de Brian Michael Bendis et Michael Avenoming. Et là, ça fait un peu écho à ce que nous disait Stéphane la semaine dernière. Humming se fout un peu de nous parce que bon, il serait temps que on arrive à avoir un peu de Powers qui revient. Et là, il se lance donc dans un nouveau truc. Alors avec un truc pour tout âge, nous dit-on. Oui, on est dans le super-héros, a priori un peu jeune public. Mais surtout, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, beaucoup plus convenu. Et ça va faire prendre ne serait-ce qu'un peu plus de retard à Powers qui commence à en prendre énormément.
Bah, ça fait un peu penser que tout simplement Humming et Bendis se sont lassés de Powers et que ils sont...
Mais à ce moment-là, ils finissent les histoires qu'ils ont faites et ils clôturent le truc.
Eh bien non, puisqu'ils ont envie de nouveautés et qu'ils ont aucune conscience et qu'ils ont envie de les faire tous les
Parce que bon, il y a quand même des épisodes qui sont annoncés depuis un an de Powers, hein.
Exact, oui.
Donc voilà, c'est juste.
Voilà, on n'est plus à un foutage de gueule près, j'ai envie de dire.
Voilà. Donc après, Michael Bendis est très occupé, il fait des tas de choses. Il a le temps de faire ça, c'est un peu ça qui est étonnant. Voilà, donc il y a eu un graphic novel il y a un an, là ils nous refont une série. Ouais, bon. On veut juste savoir où on va avec Power, c'est avoir un jour au moins une fin de ce qui a été commencé. On va continuer donc sur un autre éditeur avec Image et un certain Mark Poulton sur Avenge Line. C'est bizarre, on y revient.
On y revient, on en parlait tout à l'heure.
Donc la série, on nous annonce déjà le 11. Mais quand on regarde le previews, donc il y a plusieurs fichiers pour avoir la liste. Il y a la liste des titres qui sortent et il y a la liste des titres qu'on annule et qui peut aussi être très intéressante sur l'avenir des séries. Alors là, il n'y a plus qu'une seule couverture sur ce numéro 11 et pour cause, les numéros 7, 8, 9 qui avaient été sollicités avec trois couvertures différentes, donc une par Lars Liefeld, une par Jenny, donc Owen Jenny, c'est le dessinateur régulier, et une à chaque fois par un invité, donc il y avait Bullock sur le 7, il y avait Maline sur le 8, il y avait Shamsher sur le 9. Eh bien, toutes ces couvertures alternatives, les 6 sont annulées. Il ne reste donc pour les 7 8, 9 que les couvertures de Liefeld.
Trop, ça va vendre, ça.
Ça va vendre, et puis surtout, comme en fait, elles sont commandables séparément sur le Previews, si vous êtes dit surtout je ne veux pas les couvertures de Liefeld, vous risquez de vous retrouver sans les numéros.
Ah bah oui.
Donc, voilà.
Donc, si déjà la série a des petits problèmes de vente, ça va pas arranger le tout.
Alors, l'autre solution, ça peut être aussi de dire, eh ben, on envoie la couverture A à tout le monde et on supprime, voilà. Sauf que si vous avez été fan et que vous avez commandé trois fois pour avoir les trois couvertures,
vous allez vous retrouver avec trois couvertures de Rob Liefeld.
Ouais. Bon, si vous êtes passé par votre libraire, c'est lui qui va se retrouver avec deux exemplaires en plus sur les bras.
Il va être content.
J'espère pour lui qu'il a pas 36 fans d'Avengeline. Enfin, s'il y avait un comic shop au monde qui avait 36 fans d'Avengeline, ça se saurait.
Ça se saurait,
effectivement. À part effectivement celui où va toute la famille du dessinateur. Ouais, donc concrètement, ça sent un peu le sapin sur la série Avengeline. C'est un peu le début de la fin. Après, soyons tout à fait honnêtes, on en est déjà à la sollicitation du 11. On s'attendait pas forcément à ce que Sri Lanka aille aussi loin. Et je ne suis pas sûr que les séries précédentes aient été aussi loin.
Oui, il y a de grandes chances parce que. Oh, quoique on était en période des années 90.
Non, parce qu'Avengeline n'a jamais été chez Image avant. C'était sorti à l'époque d'abord chez Maximum Press.
Ah oui, la grande période d'Extrême et voilà. Bataclan.
Il sortait en parallèle d'Extrême. Donc il est d'abord sorti chez Maximum Press, il a dû revenir à une numérotation 1 chez Awesome. Et puis comme après on faisait un volume.
C'était voilà. un gros pataquet.
Et à l'époque, il y avait énormément de séries chez cet éditeur qui s'arrêtaient, qui recommençaient au numéro 1, après le numéro 3 ou même avant.
Alors on a une mini-série en 3 numéros de Avengeline. Chez Maximum, on a 14 numéros, tu vois. Quand même.
Que je suis langue de vipère.
Voilà. On a un numéro 1 chez Awesome,
oui.
Qui était le début d'une série qui n'était jamais été finie. Donc, on a une mini-série Armageddon chez Maximum Press, on a un one-shot Avengeland Bible, Deadly Sins, Power, enfin des trucs.
D'accord, bon, il y en a plus que je ne pensais. 14, c'est déjà un succès. Sur Glory, c'est plus simple parce qu'en fait, ils ont repris la numérotation complète. Alors, c'est Joe Keating au scénario et Ross Campbell au dessin. Alors, j'ai pas lu ce que ça donnait pour l'instant. La série peut être assez étonnante. Ce qui est étonnant, c'est la couverture de ce numéro 26. L'arc s'appelle Destroyer. Et on nous apprend les secrets du passé de Glory. Ce qui me fait juste un peu peur, c'est le décor. Je ne sais pas si tu as vu la couverture, mais Ulysse Farinas qui dessine cette couverture est quelqu'un qui se documente et qui prend des vrais bâtiments en décor. Voilà. Juste là, on la voit bardée comme il n'y a pas, enfin comme d'hab, quoi, devant le Mont-Saint-Michel.
Et là, ça me merdier devant.
Et voilà, si elle pouvait éviter de démolir les trésors locaux, ça nous arrangerait un peu. Parce qu'elle a encore l'air un peu remontée, vu le long de l'arc, on peut avoir peur. On en a eu des arcs au Mont-Saint-Michel, notamment sur les X-Men, mais il s'appelait le Mont-Saint-Francis, c'était pas grave.
mais c'était pas le même.
C'était pas le même.
Il y ressemblait beaucoup, mais c'était pas le même.
Voilà. Que là, il y ressemble quand même franchement beaucoup.
Effectivement, c'est un peu le même.
Donc voilà. Donc, mais il est bien dessiné.
Oui, au moins...
On sait ce que c'est. Aussitôt. Ça, c'est effectivement plus pour l'anecdote. Donc, pour dire quand même que, ben oui, Rob Liefeld continue ses titres. Il a jamais été aussi présent chez Image depuis des années et des années.
Oui.
Ah, parce que je pense que ça fait 7-8 ans qu'on l'a pas autant vu. Hein.
Ah, largement, oui.
Donc, là, c'est plutôt, en tout cas, positif pour l'instant et on attend de voir ce que ça donnera. Au niveau des indépendants, bah, du coup, j'ai pas trouvé grand chose au niveau à vous me se mettre sous la dent. De déplorable, a priori ça pourrait être effectivement positif. Je n'ai aucun Obama du mois, qui parle plus de toute politique.
Quel dommage. Serait-on en année électorale?
Ah ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
Il y aurait bien quelque chose comme ça. Hein.
Donc là en tout cas, c'est même chez Blue Water pas grand chose, pas grand biographie. On sent vraiment qu'il y a une lassitude au niveau de Blue Water sur ce genre de choses et que ça commence visiblement à baisser au niveau vente, si tant est que ça se soit vraiment beaucoup vendu à une époque.
Bah,
et du coup, il se relance dans les séries où on utilise le nom de quelqu'un. Donc, il y avait effectivement Freddy Price donc, pour son anthologie d'horreur. Il y avait les Mésaventures d'Adam West. Et on nous fait un spin-off aux mésaventures d'Adam West, avec les vies secrètes de Julie Newmar. Alors, Julie Newmar, qui c'est ?
Mais oui, qui est donc Julie Newmar ? L'actrice qui interprétait Catwoman dans la célèbre série Batman de années 60.
Voilà. Alors, honnêtement, si on commence à nous coller tous les acteurs de série Z des années 60 à avoir une série à leur nom chez Blue Water, je crois que je préférais encore les biographies intempestives.
Oui, mais tu n'as pas compris la finesse de la réflexion chez Blue Water, c'est que Julie Newmar, elle a des nichons.
Ah, ouais.
Enfin... Donc je pense qu'effectivement, c'était surtout l'argument massif pour lancer cette série.
Ouais, enfin bon, à ce moment-là, il fallait lancer Pamela Anderson, elle en a plus. Hein.
Certes, mais est-ce qu'ils ont-ils les droits de Pamela Anderson ?
Ah bah ouais, c'est vrai que
ça peut... Ouais, ils pourraient les acheter, je pense, c'est à leur budget maintenant.
Ouais, bon, je pense que... Bon. Après, ça dépend si on a le droit à son image à l'époque ou son image aujourd'hui.
Voilà.
Ça peut changer beaucoup de choses.
Ça peut changer beaucoup de choses, oui.
Voilà, en tout cas, ben, c'est à voir ce que ça va donner, combien de temps ça va durer.
Ouais, ouais,
là aussi, je pense qu'on peut s'arrêter au numéro 3.
Oui, on peut lancer les paris, mais je suis assez d'accord, on peut penser à numéro 3-4.